est pleine. Mais qu'est-ce que j'ai reçu pour Noël? Super Mario Land 2 sur Game Boy. Nous allons le voir en test maintenant.
Après le carton de Super Mario Land, Nintendo nous concocte une suite directe avec Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Pour l'histoire, notre ennemi, après avoir éliminé Tatanga, retourne dans son pays et voit que tout est maintenant contrôlé par Wario, y compris son château. Il part donc à la recherche des 6 pièces réparties dans 6 mondes différents afin d'ouvrir la porte qui mène à Wario. Vous débuterez directement dans un niveau du type tutoriel afin de vous mettre le personnage en main. Une fois la chose faite, vous aurez accès à ces fameux 6 mondes découpés en plusieurs stages. La liberté est totale, car même si vous commencez un monde, vous pourrez le quitter en cours pour aller en voir un autre, sauf peut-être pour le monde de la Lune où il faudra refaire le niveau avec l'hippopotame et les bulles. Vous parcourrez donc le monde sous-marin, le monde des jouets, le monde d'Halloween, le monde miniature des fourmis, le monde de la lune et un arbre géant. À la fin de chaque monde, un boss garde une de ses fameuses pièces qui se mettra automatiquement dans la serrure de la porte du château final. Le dernier stage, quant à lui, est d'un niveau de difficulté un peu plus élevé. Notre Mario commence tout petit et comme d'habitude avec un champignon peut grandir. Il peut lancer des boules de feu s'il récolte une fleur et cette fois avec une carotte il se transforme en lapin avec des oreilles sur sa casquette qui lui permettent de planer et sauter plus haut. Il faudra parfois user de subtilité avec ces objets pour accéder à certains niveaux cachés. Par exemple, pour aller dans l'espace, il faudra impérativement prendre la sortie du haut dans le stage situé en haut à gauche de la carte. À la fin de ces niveaux, vous aurez deux manières de sortir, la sortie standard ou la sortie avec la clochette qui vous permettra d'avoir accès à des mini bonus. Ils vous feront gagner une fleur, une carotte ou alors des vies. Quand vous tuez des ennemis, un petit compteur en bas de l'écran augmente et une fois arrivé à 100, une étoile descend du ciel pour vous permettre de gagner encore des vies en enchaînant les ennemis. Pour les graphismes, le jeu est beau, les sprites sont gros et les ennemis sont variés. Les niveaux sont tous différents et on prend plaisir à les découvrir au fil du jeu. Une touche d'humour est également omniprésente et les boss sont vraiment sympas à éclater. La musique est de très bonne facture, assez diversifiée, elle colle parfaitement à l'humour et aux différents stages. Les bruitages sont très bons et ne lassent vraiment pas le joueur. La jouabilité est, comme dans son prédécesseur, parfaite. Mario répond au doigt et à l'œil, et si vous tombez, ne vous en prenez qu'à vous-même. Bref, je conseille énormément ce jeu avec une rejouabilité certaine. On y reprendra plaisir à parcourir les différents mondes. La note Megatest est de 93%.
Qu'est-ce que j'ai pu m'éclater sur ce jeu? Mais il reste quelque chose dans la botte. Oh, Melon! Maman, j'ai raté l'avion sur Super Nintendo! Regardons maintenant le test.
Qui ne connaît pas l'histoire du petit McAllister? Pour ceux qui ont loupé le premier film sorti en 1990, je vais vous faire un bref résumé. La famille McAllister a décidé d'aller à Paris pour Noël. Le problème est qu'ils sont nombreux et agités. Dans l'avion, les parents s'aperçoivent qu'il leur manque un enfant, Kevin. Le voici donc seul dans une immense maison où il va falloir qu'il se prenne en main. Tout aurait pu être parfait si les deux cambrioleurs ne s'en étaient pas mêlés. C'est à partir de là que notre jeune diable va poser des pièges un peu partout afin de les tenir à l'écart. C'est donc là que le jeu se situe. Vous êtes Kevin avec un pistolet à eau et d'où vous devez récupérer des objets afin de les déposer dans un genre de vide ordure qui mène directement à un coffre-fort. Les objets se situent un peu partout dans le secteur où vous êtes et les trouver n'est pas trop difficile. Vous pourrez sauter par-dessus certains malfrats ou alors leur faire tomber des objets sur la tête comme des boules de bowling. Le problème est que le QI des voleurs est inexistant et que vous les retrouverez toujours au même endroit même si vous changez de pièce pour y revenir ensuite. Les graphismes sont assez ridicules, il n'y a pas de scrolling différentiel et les différentes pièces de la maison sont assez bâclées avec des couleurs baveuses. Les sprites sont moches et ne parlons pas des animations qui tournent à environ une image et demie par seconde. Je parle notamment de notre bonhomme qui court. Les musiques sont horribles, on reconnaît le thème principal quand le titre apparaît et la danse féerique de la prune sucrée ou la danse de la fée dragée selon les préférences. La musique que l'on entend pendant une grande partie de notre périple est là pour booster l'action mais on aura vite fait de couper le son. La jouabilité, quant à elle, est plutôt bonne. Le personnage répond bien et les commandes ne sont vraiment pas difficiles. Bref, on regrette que le jeu ne soit pas de la trempe du film, c'est-à-dire beau, magique, avec des musiques exemplaires et une bonne rejouabilité. Je ne le conseille pas vraiment car étant un grand fan du film que je vous conseille de regarder pendant cette période de Noël, j'ai été extrêmement déçu par cette chose. La note Megatest est de 11% car on reconnaît le thème principal du film au début.
Bon, je vais laisser Kevin McAllister avec ses bandits et je vais regarder ce qu'il reste dans ma chaussette blanche. Castlevania The New Generation sur Mega Drive! Excellent! Bon, regardons-le en test tout de suite!
Bon allez, commençons le test de Castlevania The New Generation sur Mega Drive. Le titre américain est Castlevania Bloodlines et le titre japonais est Vampire Killer. Ce fut le premier épisode à sortir sur une console Sega. L'histoire se passe en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Elizabeth Bartley, une femme vampire exécutée au 15e siècle et ramenée à la vie par une sorcière un peu plus tard, décide de partir à la conquête de l'Europe afin de faire revenir le comte Dracula, son oncle. C'est là que John Morris, descendant de Quincy Morris, lui-même descendant de la famille Belmont, avec le fouet légendaire, part à la recherche de cette vampiresse afin de réduire ses plans à néant. Il sera accompagné par Eric Lecard, guidé par un vieillard sur la destinée du tueur de vampires qui est équipé avec une hallebarde. John pourra fouetter dans les diagonales ou en bas lors de ses sauts et s'accrocher à certaines parois afin de se balancer vers des plateformes éloignées, tandis que Eric pourra sauter beaucoup plus haut. Au début du jeu, on peut choisir entre ces deux personnages, ce qui est un petit plus, même si le chemin à parcourir reste quasiment le même. Pour les habitués du fouet, je leur conseille de prendre Eric le Card, il est très sympa à essayer. Après avoir choisi votre personnage, vous arriverez directement sur un écran où vous pourrez voir votre héros de dos comme dans Super Castlevania 4. Ensuite, on retourne au château de Dracula en ruine et on reconnaît rapidement le premier niveau de Castlevania sur NES, en version améliorée bien sûr. Les cœurs ne sont plus de la partie, maintenant il faut récolter des rubis afin d'utiliser vos armes secondaires. L'arme principale peut être améliorée 3 fois et la dernière évolution est la plus puissante. Elle explose vos ennemis facilement ainsi que les boss. Seul inconvénient, dès que vous vous faites toucher, vous la perdez et revenez au second niveau de l'amélioration. Le jeu est découpé en 6 niveaux qui vous feront voyager à travers l'Europe. Vous irez en Transylvanie, en Grèce, en Italie, en Allemagne, en France et finirez en Angleterre. Les graphismes sont plutôt sympas, certains niveaux sont beaux et d'autres plus fades. Les sprites sont assez diversifiés, mais l'animation n'est pas non plus extraordinaire. Le style gothique est bien respecté et on prendra tout de même du plaisir à découvrir les différents niveaux. La bande sonore est magnifique, on reconnaît peut-être le speaker de la Mega Drive, mais le résultat est vraiment bluffant. Les airs sont mélodieux et on distingue la patte du Castlevania. Les bruitages passent très bien et ne sont pas lassants. La jouabilité est de très bonne facture. Notre personnage répond très bien et les passages de plateforme se font sans trop de peine. Ce jeu est une première sur Mega Drive, il mérite le coup d'œil. Pas trop simple, il se fait relativement rapidement, il reste tout de même un très bon jeu de plateforme avec la sauce gothique qui a fait de la série des Castlevania une série mythique. La note Mega Test est de 88%. Nous avons vu ces trois tests, maintenant je vais vous laisser regarder le making-of de l'émission de Noël. J'espère que vous allez rigoler autant que moi pour faire cette émission. C'est Noël ! C'est Noël pour la troisième fois !
Bien le chat là.
Nous allons voir ça tout de suite en test, en vidéo. Nous allons le voir tout de suite en test. J'ai postillonné, c'est grave.
Et s'il mange la carotte magique, il devient un lapin de robot.
La récolte de ces 6 pièces m'a vraiment épuisé. Elle laisse ses pièces tellement soleil. Ah, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Il y a encore quelque chose dans ma grosse boîte blanche. Il y a encore quelque chose dans ma grosse boîte blanche.
Allez, sérieux.
Avec Mario Lando. L'émission. Putain le chat. Ça suffit.
Rico de famille, putain gaz.
Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette émission. Je vais vous laisser maintenant avec votre famille ou vos amis fêter Noël. Je vous souhaite tout simplement de bonnes fêtes et un joyeux Noël.